En arrière, si vous le voulez bien.
C'est l'un des plus violents séismes de l'histoire. Il a provoqué des raz-de-marée. Plusieurs pays, plusieurs îles ont été touchés. Pour l'instant, on parle de plus de 3000 morts.
Les images de ce qu'il s'est passé ce jour-là, je suis sûre que la plupart d'entre vous les avez encore en tête aujourd'hui. Le 26 décembre 2004, un tremblement de terre secoue l'océan Indien. Il est 7h58 du matin, heure locale. D'une violence extrême, le séisme provoque peu de dégâts à terre, mais il entraîne la formation d'une petite vague au milieu de l'océan, une petite vague qui se déplace tout de même à 800 km/h, approchant des côtes, elle ralentit, elle se transforme alors en vague géante. La suite de Dressy, c'est Philippe Antoine qui vous la racontait à l'époque.
20 minutes après le tremblement de terre, la première déferlante s'abat sur les côtes de la province d'Aceh, en Indonésie. À certains endroits, elle atteint 15 à 20 mètres de haut. C'est le début d'un incroyable tsunami qui va ravager les uns après les autres tous les pays de l'océan Indien et surprendre à la fois les populations et les touristes, notamment ceux venus du monde entier pour profiter des plages renommées de Thaïlande.
En fait, on a ressenti l'effet du tremblement de terre, mais très léger, quoi, comme un peu la tremblote, et ensuite la mer s'est retirée sur plus de 500 mètres. Et on voyait des gens qui baladaient très très loin sur la côte. Et puis on les a vus revenir en courant et la vague en a emporté avec elle, ça c'est sûr.
Voilà pour cet extrait de reportage qui se termine sur le témoignage à l'époque de Jean-Marie Bass, un touriste belge qui était présent alors à Phuket en Thaïlande. Au final, le tsunami du 26 décembre 2004 a tué plus de 220 000 personnes. Les chiffres ne sont pas très précis. Certains parlent de 250 000 victimes de 37 nationalités différentes, parmi lesquelles 11 Belges. Plus d'un million d'habitants des pays touchés sont aussi devenus sans abri. Et nous, on va évoquer ce souvenir, essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé à l'époque, voir aussi si des leçons ont été tirées, si un tel événement peut à nouveau se produire aujourd'hui avec notre invité. C'est Emmanuel Anert, physicien, professeur de modélisation environnementale à l'UC Louvain et chercheur à l'Earth and Life Institute. Bonjour Emmanuel Anert.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous.
Avec plaisir.
Dans le studio de Matin Première aujourd'hui. Je viens de parler d'un tremblement de terre au cœur de l'océan Indien qui forme d'abord une petite vague qui se déplace très rapidement. Peut-être que vous pouvez commencer par nous rappeler, basiquement, mais précisément, c'est quoi un tsunami en fait ?
Oui, donc un tsunami, c'est une vague qui se forme à la surface de l'océan, qui est liée à une variation très rapide en fait du niveau de la surface de l'océan. C'est un peu comme si vous alliez près d'un étang, vous jetez un caillou dans l'eau, vous formez des ronds dans l'eau, et le tsunami, c'est vraiment la même chose en fait. Si ce n'est que vous n'avez pas lancé un caillou dans l'eau, vous avez une variation du fond de l'océan suite à un séisme, et cette variation très abrupte en fait du fond de l'océan fait que la surface de l'océan varie également de manière très très abrupte, et là vous formez une vague. Et comme vous dites, cette vague se propage très rapidement à la vitesse d'un avion, et quand elle arrive près des côtes, cette vague ralentit soudainement, son amplitude augmente énormément et provoque cette onde destructrice, qui inonde les côtes.
Est-ce qu'on sait pourquoi un tsunami se produit ? J'entends par là quels sont les facteurs qui font qu'à un tel endroit, à un tel moment, ce phénomène va avoir lieu. D'abord, ce tremblement de terre sous l'eau.
Oui, c'est ça. Donc c'est lié en général à un séisme, donc qui provoque une variation verticale du fond de la mer. Ça peut également être lié à d'autres choses. Ça peut être lié, par exemple, à un glissement de terrain souterrain ou bien à un volcan sous-marin qui rentrerait en éruption, voire à une météorite dans les cas les plus extrêmes. Et donc, ces séismes, ils ont lieu dans des zones bien particulières. Donc, vous avez des zones de faille, en fait, qui font le pourtour de l'océan Pacifique, dans l'océan Indien également. Vous avez ces zones de faille qui sont beaucoup plus, propices à l'arrivée de ces séismes. Et quand ces séismes ont lieu, à ce moment-là, ils provoquent un tsunami. Oui.
Et le séisme du 26 décembre 2004, il était d'une force incroyable. 9,3 sur l'échelle ouverte de Richter. La vague du tsunami a atteint, elle, les 15 à 20 mètres de haut. C'était du jamais vu à l'époque.
Oui, c'était vraiment un séisme extrêmement important. Donc, pour vous donner une idée, la zone sur laquelle le fond marin s'est déplacé faisait une longueur d'environ 1000 km, sur une largeur d'environ 200-300 km. Donc, ça veut dire que sur une surface qui est grosso modo la moitié de la France, vous avez le fond marin qui est monté ou descendu d'environ 5 mètres. Donc, c'est comme si vous jetiez dans l'océan Indien un caillou qui avait la taille de la moitié de la France sur une épaisseur de 5 mètres. Et vous voyez la vague que ça va produire.
Absolument énorme. Et on sait que des villages ont été rayés de la carte. Des îles ont même été déplacées à l'époque. Le fait que ce tsunami se produise dans l'océan Indien, est-ce que ça a été un choc, je vais dire, pour la communauté scientifique qui a alors vraiment pris conscience que les tsunamis, ils ne concernaient pas que l'océan Pacifique qui était davantage étudié à l'époque ?
Oui, donc c'est vrai que historiquement, de nombreux tsunamis ont eu lieu dans le Pacifique, et donc le Pacifique, c'est un océan qui est beaucoup plus, comment dire, suivi, beaucoup plus monitoré en termes de tsunamis. Donc vous aviez des bouées qui étaient déjà en place, vous aviez un réseau de sismographes qui était bien plus dense au niveau du Pacifique, parce qu'il y avait déjà eu des tsunamis au niveau de l'Alaska, par exemple, au niveau de Hawaï, et donc... Dans le Pacifique, on s'y attendait plus. Dans l'océan Indien, à l'époque, il y avait un sous-reporting, un sous-monitoring de ces événements, ce qui signifie que ce tsunami est venu plus comme une surprise quelque part, et donc en termes de prévention, en termes d'alerte, il y a eu beaucoup plus de retard que ce qui aurait eu lieu dans l'océan Pacifique.
Et puis en termes d'infrastructure aussi, l'océan Indien, ou plutôt les pays qui le contournent, sont peut-être des pays un petit peu moins développés, en tout cas à l'époque. Ça a accentué aussi les conséquences de ce tsunami parce que les maisons étaient moins robustes. Est-ce que les digues étaient moins bien construites, ce genre de choses ?
Je pense que ce qui a surtout causé des problèmes avec ce tsunami, c'est qu'en termes de, comment dire, de monitoring du risque sismique, c'était beaucoup plus faible dans l'océan Indien. Donc ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut un réseau de sismographes le plus dense possible, de manière à identifier la localisation du séisme le plus tôt possible, et savoir si c'est un séisme qui a eu lieu sur Terre ou dans la mer. Et si ça a lieu dans la mer, c'est important de savoir le plus tôt possible quelle est la magnitude, quelle est la puissance de ce séisme, de façon à savoir s'il y a un risque de tsunami. Donc une fois que vous avez déterminé la localisation de ce séisme, vous avez ensuite des bouées qui devraient être disposées dans l'océan de façon à s'assurer qu'il y a effectivement une vague de tsunami qui est en train de se propager, de façon à corroborer quelque part ce que les sismographes ont indiqué. Et ensuite, idéalement, vous faites tourner des modèles ou vous utilisez des résultats de simulation numérique de façon à pouvoir prédire le plus vite possible quelles sont les zones qui vont être impactées et quelle est l'amplitude de la vague à laquelle on peut s'attendre sur ces zones-là. Dans l'océan Indien, malheureusement, à l'époque en tout cas, ce type de réseau d'alerte précoce n'était pas en place et donc les informations n'ont pas circulé aussi vite qu'elles auraient dû.
Et aujourd'hui, justement, pour évaluer ce risque dont vous parlez, il faut combien de temps ?
À l'heure actuelle, pour localiser un séisme, il faut quelques minutes, une dizaine de minutes, vous arrivez à localiser l'endroit du séisme par triangulation à partir de différents sismographes. Donc vous savez où le séisme a eu lieu. Ensuite, des bouées qui sont positionnées maintenant de manière beaucoup plus dense au sein de à travers les océans permettent de corroborer cela. Donc en une demi-heure, peut-être en 15-20 minutes, vous avez une bonne idée du risque encouru et vous arrivez déjà à lancer des préalertes. Mm-hmm. Ensuite, utiliser des modèles pour prédire l'endroit et l'amplitude de la vague au niveau des côtes beaucoup plus loin, ça prend un peu plus de temps, peut-être qu'une heure, une heure, deux heures seront nécessaires. Mais en tout cas, en une demi-heure, probablement maintenant, vous êtes capable de prédire beaucoup plus vite les zones qui vont être touchées et lancer des alertes.
12 pays ont été touchés en 2004, de l'Asie à l'Afrique, en passant par l'Inde. C'est en fait tout le pourtour de l'océan Indien qui a été concerné. On a beaucoup parlé de la Thaïlande, mais c'est surtout l'Indonésie, en fait, qui a payé vraiment le plus lourd tribut de ce tsunami. À l'époque, la solidarité internationale s'est mise en œuvre, des fonds ont été levés, des militaires, des équipes de secours ont été envoyées sur place d'un peu partout dans le monde. On va écouter, si vous le voulez bien, le libéral belge Louis Michel, qui était alors commissaire européen au développement et à l'aide humanitaire. C'était en janvier 2005.
Non seulement c'est une priorité, mais l'Europe fait déjà quelque chose. Le 18 janvier à Kobe au Japon, il y a une réunion d'experts qui se tient.
Donc la machine s'est mise en branle.
Non, elle ne s'est pas mise en branle. Elle était déjà mise en branle. Ça date déjà depuis pas mal d'années que l'on travaille sur cette question.
Mais un peu tard, l'Union européenne.
Mais l'Union européenne finance d'ailleurs à COP cette réunion d'experts pour essayer de généraliser le système de early warning. Il ne s'est pas mis en marche maintenant, ça existe déjà depuis pas mal de mois. C'est quelque chose qui évidemment prend du temps, hein. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut mettre en œuvre comme ça du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'il faut regretter que c'est souvent quand les catastrophes ont eu lieu que les phénomènes s'accélèrent, que les réponses s'accélèrent. Enfin, c'est tout à fait, on est branché sur cette question depuis déjà pas mal de temps.
Emmanuel Lennert, à l'époque, on n'a pas pu prévenir, prévoir, anticiper ce phénomène. Impossible.
Comment dire le risque est présent, mais savoir quand un tremblement de terre va avoir lieu, où il va avoir lieu, ça, c'est pas prévisible. Donc ça, un tremblement de terre arrive comme une surprise. Il y a parfois des signes avant-coureurs, mais c'est très compliqué de prédire quand un tremblement de terre va avoir lieu. Une fois que le tremblement de terre a lieu, par contre, là, il est temps de mettre en place des mesures de façon à prévenir les populations. Et là, il faut bien se rendre compte qu'on a le temps. À titre d'exemple, au Japon, quand le tremblement de terre a eu lieu juste avant l'épisode de Fukushima...
En 2011,
c'est bien ça. À ce moment-là, en 15 minutes, ou 15-20 minutes, le tsunami est arrivé au niveau des côtes. Mais en déant ces 15-20 minutes, il y avait déjà des alertes qui étaient lancées pour prévenir les gens d'évacuer les côtes. Oui. Donc là, en peut-être 10 minutes, ils ont réussi à lancer une alerte pour prévenir les personnes près des côtes d'évacuer. Donc ça veut dire que c'est possible de le faire. Il faut juste que les dispositifs d'early warning, d'alerte précoce, soient mis en place.
Ce tsunami de 2004, il a déferlé en plusieurs heures. Hein, ça, on l'a bien compris. Les pays n'ont pas été touchés au même même moment, une fois que l'Asie a été touchée, est-ce que là, il a été davantage possible, même à l'époque, de savoir que l'Afrique allait aussi en être victime et de prévenir de ce côté-là? C'est pour ça qu'il y a eu moins de victimes côté africain que côté asiatique? Ou c'est parce que la vague a eu le temps d'arriver, peut-être de s'amoindrir? Quel est le phénomène?
Oui, donc, à l'époque, je pense qu'effectivement, on aurait pu prévenir les personnes sur le pourtour est africain du risque de tsunami. Ça a pris environ 7 heures pour que la vague arrive sur les côtes du Kenya, par exemple. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à cette distance-là, la vague s'est atténuée. Donc, l'amplitude de la vague était beaucoup plus faible au niveau des côtes est-africaines qu'elle ne l'était au niveau des côtes d'Indonésie ou des côtes de Thaïlande. Oui. Et donc, même si on avait pu les prévenir, ils auraient été confrontés à une vague bien moins dangereuse que celle auxquelles ont été confrontées les personnes en Indonésie ou en Thaïlande.
Vous avez évoqué la catastrophe de Fukushima en 2011. Est-ce que, hormis 2011 et Fukushima, depuis 2004 et le tsunami qu'on évoque ce matin, il y a eu d'autres phénomènes d'une telle ampleur et d'une telle intensité?
D'une telle ampleur, d'une telle intensité, probablement pas, mais des tsunamis très importants qui ont fait de nombreuses victimes, oui, il y en a eu. Donc il y a celle de Tohoku qui a donné lieu à Fukushima, il y a également eu un tsunami au large de Sulawesi, donc ça c'est la partie est de l'archipel indonésien, c'était en 2018. Il y a eu un tsunami plus récemment dans les archipels des Tonga, dans le Pacifique, où là c'est un volcan sous-marin qui est entré en éruption et qui a provoqué un tsunami qui a impacté toutes les îles autour de l'archipel des Tonga. Donc c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent pour lesquelles on peut être préparé, mais on ne les empêchera pas. Donc c'est des choses qui vont continuer à arriver, oui.
Et puis on va rappeler qu'à l'époque du tsunami qu'on évoque aujourd'hui, les réseaux sociaux n'en étaient vraiment qu'à leur début. Hein. C'est en février 2004, par exemple, que Facebook était lancé. Le tsunami, il s'est produit seulement 11 mois plus tard, hein, le 26 décembre de la même année. Aujourd'hui, les images, elles se propagent beaucoup plus vite. Hein. Lorsqu'une catastrophe naturelle a lieu, les réseaux sociaux permettent aussi à leurs usagers de se signaler en sécurité. On l'a encore vu à Mayotte avec le passage du cyclone Chido récemment. Lors du tremblement de terre survenu en Turquie aussi, il y a bientôt 2 ans, on se souvient qu'un survivant s'était géolocalisé via Facebook, ce qui a permis qu'on le retrouve, cette personne, en fait, dans les décombres de son immeuble. Ça, c'est une véritable avancée, Emmanuel Anner.
Oh, bien sûr, bien sûr. Donc, quelque part, l'information circule tellement plus vite à l'heure actuelle qu'à l'époque. Et donc, ça signifie que ce système d'alerte précoce, quelque part, ce sont presque les personnes qui peuvent le faire elles-mêmes.
D'une
façon, il n'y a plus besoin de s'appuyer entièrement sur des dispositifs qui seraient mis en place par les gouvernements locaux. On peut vraiment imaginer que les personnes s'occupent elles-mêmes de diffuser l'information.
Il est précisément 7h58 sur la première. Nous sommes le 26 décembre 2024. Ça fait donc pile maintenant 20 ans, jour pour jour, heure pour heure, mais minute pour minute, hein, que se formait ce tsunami qui a ravagé les côtes de 12 pays de l'océan Indien, parmi lesquels, on les a déjà évoqués, Indonésie, Thaïlande, Sri Lanka. Emmanuel Anart, pour conclure, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'on a tiré les leçons de cet événement?
Oui, je pense qu'on a tiré les leçons. Je pense qu'en termes d'alerte précoce, c'est quelque chose de beaucoup plus développé à l'heure actuelle. Donc en termes de sismographe, qu'en termes de bouée qui permet de capturer ces ondes quand elles se propagent à la surface de l'océan, qu'en termes de modèles qui sont bien plus rapides pour simuler ces événements. Donc oui, les choses sont largement améliorées à l'heure actuelle.
Et peut-être une question qui peut intéresser nos auditeurs, même si nous, on se sent très loin de ces régions. Mais est-ce qu'un phénomène pourrait se produire chez nous? Est-ce qu'on pourrait voir une vague géante arriver du côté de la mer du Nord, par exemple?
C'est très peu probable. Oui. C'est pas impossible, mais c'est très très peu probable. Donc le risque sismique en mer du Nord est beaucoup plus faible qu'il ne l'est dans le pourtour Pacifique ou dans l'océan Indien. Et donc, chez nous, ce risque-là est très, très, très faible.
En mer Méditerranée?
En mer Méditerranée, il est un peu plus important. Donc, vous avez des séismes. Il y a eu un séisme vraiment en Turquie il y a quelques années. Donc, ces séismes pourraient arriver au niveau marin. Et donc là, on pourrait imaginer des tsunamis en mer Méditerranée, même si le risque est tout de même bien plus faible que dans l'océan Indien ou dans l'océan Pacifique.
En tout cas, on pourra dire que le mot japonais tsunami est entré dans notre vocabulaire ce jour-là. C'était le 26 décembre 2004. Il y a tout juste 20 ans. Merci beaucoup, Emmanuel Anner, d'être venu nous rendre visite ce matin dans le studio de La Première. Maintenant,